Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Salut Michel.
Hello Serge, est-ce que ça veut dire que l'arrivée de deux athlètes d'élite à l'Assemblée nationale fait qu'on va prendre le sport plus au sérieux qu'auparavant?
Peut-être, en tout cas, du moins avec, entre autres, Isabelle Charest.
Oui, et la semaine dernière, c'est Enrico Ciccone, oui, que tu connais bien, qui présentait, qui veut déposer un projet de loi pour répertorier les commotions cérébrales dans la vie des athlètes et des jeunes athlètes et des jeunes participants aux différents programmes sportifs. Et ça, je pense que ça devrait s'inscrire, Serge. Je crois que, même si je suis grand-papa, je pense que les carnets santé pour les enfants, ça existe toujours. Alors, pourquoi des incidents de commotion cérébrale ne seraient pas répertoriés dans le carnet santé des enfants, mm-hmm, qui devraient les produire lorsque viendrait le temps de s'inscrire dans des programmes de sport ou de participer à des programmes d'élite dans le sport? Je pense que ce serait extrêmement important. Mais est-ce qu'on ira jusqu'au dépôt de ce projet de loi-là, parce que l'agenda du gouvernement en place est déjà bien rempli? Est-ce qu'on laisserait passer un projet de loi proposé, déposé par un député de l'opposition? On verra bien. Hier,
oui,
Isabelle Charest, qui est la ministre responsable du sport, mm-hmm, dépose un guide d'intervention pour contrer les comportements inacceptables dans le hockey mineur. Mais ça devrait pas seulement s'appliquer au hockey mineur. Parce que, Serge, tu as entendu plusieurs histoires d'horreur également au soccer. Et il y en a dans d'autres sports. Évidemment, le hockey, c'est toujours plus publicisé parce que c'est le hockey qui attire l'attention.
Ouais, c'est dans le hockey, toujours. C'est notre sport, le hockey.
C'est ça. C'est la mesure étalon. Moi, je veux bien. Mais comment qu'on va faire pour appliquer ça? Qui va décider de quoi? Est-ce que c'est chacune des organisations qui aura un guide qui va décider de l'appliquer selon son interprétation? Pour moi, c'est une mesure louable, mais je voudrais bien savoir, lorsqu'on aura le guide des mains, qu'est-ce, oui, qu'on va faire avec.
Puis effectivement, concrètement, dans les arénas, comment tu vas pouvoir faire appliquer ces choses-là?
Ben ouais, qui va décider de ça? Le président de l'association du hockey mineur qui est pas là? Mm-hmm. Ou je sais pas. C'est une bonne initiative, mais qui me semble être indéfinie dans le temps.
Ouais.
Il faudrait que ce soit un petit peu plus musclé. Comment qu'on fait appliquer ça avec le nombre de parties de hockey mineur, le nombre d'intervenants, le nombre d'interprétations différentes? Mais moi, c'est la fin de la journée d'hier qui m'a surpris. Lorsque disons, ce serait pas mal plus important d'avoir une espèce de répertoire de délinquants sexuels, de ces gens qui se faufilent non seulement au hockey mineur, parce qu'il y a eu plus de cas dans le hockey mineur, il n'y a plus de participants. Mm-hmm. Mais le paquet de délinquants sexuels qui se retrouvent dans des positions d'entraîneur ou de directeur de projet dans les différentes organisations sportives. Il y a 900 000 athlètes fédérés au Québec. Mm-hmm. Comment qu'on fait pour savoir que quelqu'un qui a un comportement sexuel déviant, qui se retrouve, qui dirige une équipe de volleyball, qui se retrouve dans l'hockey mineur, est-ce que les communications se font entre différentes fédérations sportives? Ce n'est pas le cas. Je pense que toutes les organisations de sport, ça, c'est pas un problème seulement au Québec. Puis le projet de répertorier également les commotions cérébrales, ce sont des projets qui devraient s'étendre à la grandeur du territoire canadien.
Ouais.
Parce que les délinquants sexuels peuvent se promener d'une province à l'autre sans qu'on sache, et d'un sport à l'autre. Donc, il faudrait, mais ça, c'est une autre affaire, là. C'est très délicat au niveau au niveau juridique.
Mm-hmm.
Mais il faudrait prendre les choses en main avant de passer au guide de bonne conduite, là, qui finalement c'est ben du vent, mais pratico-pratique, ça amène pas grand chose. Les affaires de commotion cérébrale et de délinquance sexuelle, voilà deux sujets sur lesquels on devrait se pencher rapidement et très sérieusement, non seulement ici à l'Assemblée nationale, mais également à Ottawa, au gouvernement fédéral.
Michel, tu veux
c'est un problème qui déborde, qui, ouais, déborde nos frontières et qui s'adresse à tous les jeunes qui vont faire du sport, parce que nos jeunes, par exemple, nos jeunes skieurs vont se retrouver dans l'ouest du pays. Il y a des joueurs, il y a des sites d'entraînement nationaux qui sont au Québec. je pense que là-dessus, on devrait agir rapidement. Et c'est quelque chose qui se fait, qui pourrait se faire tout au moins au niveau des commotions cérébrales, d'une façon pas mal plus facile que d'appliquer un registre de délinquance sexuelle sur les entraîneurs sportifs.
Surtout ceux qui n'ont pas encore d'antécédents à ce moment-là, à un moment donné.
C'est ceux-là qu'il faut trouver.
Ils sont difficiles à repérer. Ouais.
Parce qu'écoute, là, évidemment, tu vois un célibataire qui vient, même si c'est pas seulement l'exclusivité des célibataires, mais quelqu'un qui arrive, qui s'occupe beaucoup des jeunes, il faut être constamment aux aguets. Puis ça, c'est de valeur parce que ça met beaucoup de pression sur des gens qui n'ont pas ce genre de comportement-là et qui vont éviter souvent de plonger dans l'univers sportif de peur de se faire accuser toutes sortes d'affaires.
Ouais. Puis aussi, Michel, tu sais, quand on parle, j'allais dire, la vigilance des parents, je sais qu'au hockey mineur, à un moment donné, il y a eu une sensibilisation à ça. C'est-à-dire qu'il s'arrangeait pour qu'il y ait des parents bénévoles qui soient dans l'entourage de l'équipe, dans les vestiaires, entre autres. Moi, je sais qu'il y a les entraîneurs qui, quand vient le moment de prendre les douches, qui sortent,
Du vestiaire.
On a essayé un peu, si on veut, ce genre de manœuvre-là, ou essayer de changer, si on veut, les habitudes, mais aussi peut-être des fois les parents d'être encore peut-être un petit peu plus vigilants ou attentifs à ce qui se passe dans certaines équipes sportives ou auprès d'entraîneurs.
Il faut surtout être attentif au comportement de nos enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Il y a plusieurs éléments. Est-ce qu'ils sont moins intéressés? Est-ce que les performances sont moins éclatantes? Est-ce qu'il y a un éloignement entre le personnel d'entraîneur ou d'un certain entraîneur vis-à-vis eux? Il y a un paquet de choses. Plutôt que surveiller le vestiaire, il faudrait surtout surveiller ce qui se passe à l'extérieur du vestiaire. Ouais. Parce que c'est pas durant le match, puis c'est pas dans le vestiaire que ça se passe. C'est les à côté. Et ce sont ces à côté-là qu'il faut surveiller de très, très près. Et surtout, le comportement de nos enfants. Donc, à ce niveau-là, comportement des enfants, leur santé vis-à-vis des commotions cérébrales, deux points extrêmement majeurs qui méritent plus d'attention, je pense, qu'un guide sur le mauvais comportement des parents dans les arénas ou dans les différents plateaux sportifs. Ça me semble plus important à régler pour l'instant.
Michel, tu veux nous parler de Marc Bergevin et de ses transactions plutôt mineures?
Ben écoute, je pense pas que le Canadien va faire une transaction majeure parce qu'on veut pas toucher au noyau de l'équipe. Sauf que du côté du Canadien, on semble privilégier, en tout cas c'était l'objectif de l'organisation, de voir au développement de ces jeunes joueurs. Hier, on va chercher un gars de 34 ans chez les Kings de Los Angeles qui nous ont déjà passé quelques vieux radoux, là, quelques vieilles picouilles comme Dwight King, par exemple. On est allé chercher Nate Thompson, qui est un joueur de centre qui travaille bien sur les mises en jeu, qui n'est plus le joueur qu'il était, pour amener une saveur différente au quatrième trio. C'est vrai que le quatrième trio du Canadien n'a pas beaucoup de personnalité, mais on souhaite que les quatrièmes trios soient un petit peu plus productifs en attaque puis soient plus dynamiques sur la patinoire. Est-ce qu'avec l'arrivée de Nate Thompson et de Dale Weiss, le quatrième trio du Canadien, qui devrait être complété par Nicolas Deslauriers, va être plus dangereux offensivement? Pas en tout.
Mais non.
Est-ce qu'il sera plus dynamique, plus effectif sur le plan physique? Je crois que oui, mais est-ce que ça va changer la dynamique du Canadien? Écoute, je pense que le fait que le quatrième trio se soit retrouvé sur la glace pour les deux premiers buts des Leafs l'autre soir a forcé la main du directeur gérant parce que Claude Julien n'est pas du tout content. Puis avec le jeu de la chaise musicale qu'on a depuis le début de la saison sur le quatrième trio, c'est le temps sans doute d'avoir un peu de stabilité. Mais est-ce qu'on l'a de ce côté-là au détriment de Mathieu Péka et du jeune Charles Hudon? Dans le cas de Hudon, sais-tu quoi? On l'a assez mêlé, là. Je sais pas s'il va être capable de s'en remettre.
Ouais.
Dans le cas de Mathieu Péka, il patine, mais il se passe pas grand-chose. Fait que, est-ce que leur chien est mort? C'est Michael Chaput, sans doute, qui va se retrouver au balotage aujourd'hui. Parce qu'il va falloir faire de la place. Hier, Kenny Agostino a été réclamé par les Devils du New Jersey. On verra bien ce qui va se passer avec Chaput aujourd'hui. Mais on amène deux vétérans de plus de 30 ans. La Ligue nationale n'est plus une affaire de vétérans, de joueurs de 30 ans. C'est une affaire pour les jeunes joueurs, extrêmement rapides, talentueux. C'est vrai qu'on donne rien. On touche pas à personne. En ayant effectué ces deux transactions-là, et dans le cas de Thompson, il sera agent libre sans compensation à la fin de l'année. On n'a pas d'engagement à long terme avec lui. Sauf que, bon, On pose des gestes. On espère que le quatrième trio sera plus efficace. Dans le passé, est-ce que ces gestes-là ont été payants? Plus ou moins, certaines acquisitions l'ont été. Je demeure sceptique, mais le Canadien n'est pas le genre d'équipe qui va bouger pour aller chercher un joueur qui va faire une différence parce qu'on veut pas toucher. On n'a pas les réserves pour faire ça dans un premier temps et on veut pas toucher à l'avenir de l'équipe. Moi, je pense que Bergevin agit, mais agit très prudemment.
Voilà. Tu vas nous parler de football, de le porteur de ballon, Kareem Hunt, qui se retrouve avec les Browns.
Écoute, ça a paru lorsque il a quitté les Chiefs de Kansas City qui n'ont pas été aussi dangereux sur l'attaque au sol. Puis ça a paru dans les séries éliminatoires. On n'avait pas le porteur de ballon qui faisait la différence. Il est accusé de violence conjugale. Et même si les Browns de Cleveland l'ont acquis, on prend une chance. Parce que là, la NFL, il peut pas jouer dans la NFL tant que la Ligue n'aura pas complété une enquête exhaustive. Et ça leur prend du temps, maudit. On n'a pas encore statué là-dessus. Et même si on lui permettait de... Le bureau du commissaire lui permettait de revenir dans la Ligue, il y aurait une sanction minimale, une suspension minimale de 6 matchs. Donc, il pourrait pas jouer pour les Browns de Cleveland dans le meilleur des scénarios avant la 7e semaine d'activité de la prochaine saison.
Okay.
Donc, plusieurs partisans des Browns qui voyaient l'arrivée de Hunt comme un boost incroyable qui allait pouvoir changer l'allure de la formation dès le début de la saison. Ne vous emballez pas. Vous le verrez pas avant la moitié de la prochaine saison.
Bon, ben voilà. Ben merci beaucoup, Michel.
Ben écoute, on se prépare. Le Canadien ne joue que jeudi.
Ben oui, contre les Prédateurs.
C'est quand même une grosse semaine. Contre Nashville. Je trouve que Nashville a perdu un petit peu de son lustre. On pourra en parler. Et samedi, surtout contre le Lightning de Tampa Bay.
Donc, un autre test, Michel, pour le Canadien. On n'arrête pas de répéter ça depuis le début de la saison. Non, c'est juste des tests.
Les tests sont finis. Là. Ouais. On sait à peu près ce que le Canadien vaut, ce que le Canadien peut faire. Le Canadien se maintient dans le peloton des 10 meilleurs clubs de la Ligue, ou à peu près, dans la première moitié, en tout cas. Est-ce qu'on est capable, la question de savoir, c'est toujours celle-là, qu'est-ce que le Canadien va faire dans une série 4-7 contre la même équipe? C'est la donnée que l'on n'a pas. On peut avoir du succès contre les meilleures équipes un soir donné, mais dans une série, est-ce que le Canadien a la profondeur? Est-ce que le Canadien a le caractère? Est-ce qu'il a le talent et le commitment pour passer à travers une série 4-7? C'est ce qu'on ne sait pas.
Non, ça risque d'être plus difficile.
Seulement au mois d'avril.
Merci beaucoup, Michel.
Salut.
Bonne journée, à demain. Salut.